Si on va revenir maintenant au 95e jour de guerre au Moyen-Orient, avec il y a le conflit sur le terrain bien sûr, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui se passe en ce moment dans les relations entre Donald Trump, le président des États-Unis, et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Les mots sont forts de la part de Donald Trump. Le langage de Donald Trump, on le connaît. Il peut être assez vert et direct. Putain, qu'est-ce que tu fais? Dit le président des États-Unis. Tu es complètement taré. Tu serais en prison si je n'étais pas là. Je te sauve les fesses. Conversation téléphonique qui est rapportée par le média Axios. Alors, du coup, elle est sujet à beaucoup d'interprétations sur, finalement, les raisons de cette guerre et pourquoi elle a été démarrée. Justement, on va en parler avant de retrouver nos envoyés spéciaux en Israël et à Washington.
Karim Emile Bitar est avec nous, le général Pays Srandi également. Bon, bonsoir.
Bonsoir.
Ce dialogue est assez cru, assez direct. On l'imagine bien parce que Donald Trump, effectivement, est comme ça. Mais en fait, il reproche au premier ministre israélien d'être en train de faire capoter les négociations avec l'Iran.
Oui, il y a une part de sincérité, mais il y a également une part de cynisme parce que ça arrange bien les deux, ces fuites. Ça arrange très bien Trump, qui en avait assez de se faire portraiturer comme une marionnette dans les médias américains. Et ça arrange aussi Netanyahou, parce que juste après, il a fait son propre tweet. Il a dit, nous allons continuer, tant qu'Israël est menacé, nous n'allons pas cesser cette guerre. Donc, il apparaît dans une année électorale comme celui qui tient tête à Trump. Et les Iraniens ne sont pas dupes parce que très vite, ils ont sorti leur propre communiqué en disant ce qu'a dit Trump, que les négociations avancent très vite, ce n'est pas vrai du tout. Nous, on a juste exigé que le Liban fasse partie du cessez-le-feu. Et pour le reste, ce sont des propos fantaisistes. Donc finalement, à part la population libanaise qui paye les pots cassés, ce spectacle arrange tout le monde.
En même temps, chacun a sa propre stratégie. Donald Trump veut aller très vite pour annoncer qu'il est en train de sortir de ce conflit. Et en même temps, le premier ministre israélien Netanyahou, lui, il se dit c'est maintenant ou jamais pour détruire le Hezbollah. Donc, et si il y a accord, ça risque de s'arrêter. Les Américains vont partir et le problème ne sera pas réglé.
Oui, et il faut bien comprendre que la menace du Hezbollah est une menace existentielle, en tout cas pour Israël et pour Benjamin Netanyahou.
Et pas pour les Américains.
Pas pour les Américains. Donc, on voit bien qu'on est dans un engrenage qui est très compliqué au Liban, entre effectivement un Hezbollah qui reste extrêmement agressif, Benjamin Netanyahou qui veut éliminer, mais sachant que on ne peut pas éliminer le Hezbollah, on peut l'affaiblir militairement. La problématique, c'est qu'il faudra trouver une solution d'ordre.
Mais là, on parlait de troupes à Beyrouth. Hein.
Bah oui, mais là,
troupes israéliennes à Beyrouth.
Oui, mais là, on replonge dans l'histoire. C'est 1982, et là, on précipite le Liban de fait dans une nouvelle guerre civile. Hein, il y avait eu la guerre civile 75 à partir de 75, mais on replonge dans un drame absolu pour les Libanais. Or c'est pas la solution.
Voilà. Donc, mais Trump dans ce dialogue, hein, et c'est Axios qui rapporte encore une fois, le média américain aurait dit qu'il avait eu des garanties de la part des Hezbollah via des intermédiaires qu'ils allaient cesser le feu.
Oui, mais attention, d'abord, les troupes dont vous parlez, il n'y a que Trump qui en ait parlé. Les Israéliens n'ont jamais parlé d'envoyer des troupes à Beyrouth. Ils ont dit qu'ils allaient effectivement bombarder le sud de Beyrouth, la banlieue sud, qui est le fief, évidemment, du Hezbollah, et qui est une banlieue chiite, donc qui est totalement acquise au mouvement, ou en tout cas à une très grande majorité. Mais il n'a pas été question d'envoyer l'armée jusque-là,
dans les
déclarations publiques. Ce qui est certain, c'est que Trump a eu une conversation extrêmement dure, et même violente, avec Netanyahou, et les deux hommes, les deux chefs d'État, se sont renvoyés, si vous voulez, les responsabilités de leur désaccord. Trump s'est fâché parce qu'effectivement, il voyait que s'il y avait une intervention militaire jusqu'à Beyrouth, eh bien, les Iraniens refuseraient de signer un compromis. Et quant à Netanyahou, il a expliqué à Donald Trump que c'était absolument indispensable si on voulait achever cette mission jusqu'au bout et assurer la sécurité d'Israël. Donc, il y a eu un désaccord qui même va au-delà de la discussion habituelle, d'une franchise et d'une colère telle que les propos sont reportés. C'est pas uniquement de la communication, ça veut dire qu'il y a des désaccords. C'est la quatrième fois quand même que Trump force Netanyahou à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. La dernière, c'était quand il a décidé d'imposer un cessez-le-feu au Liban. L'avant-dernière, c'est quand il a décidé d'imposer un cessez-le-feu en Iran. Et à chaque fois, ça ne marche pas. Mais on voit bien qu'en Israël, il y a des gens qui sont très proches de Netanyahou, qui sont même plus extrêmes que lui, qui sont quasiment messianiques dans leur vision des choses, et qui disent « il est temps de dire non à Donald Trump ». Donc on voit que le climat est très tendu, mais quand même l'homme le plus fort de la situation, c'est Donald Trump, et qui veut absolument sauver son accord. Et à ce propos, il y a juste une petite phrase qui est importante aujourd'hui, après ce tourbillon de tweets, c'est la formule employée par le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Marco Rubio, qui dit « pour la première fois, nous sommes en train de faire admettre aux Iraniens la nécessité de négocier sur le nucléaire comme jamais ils ne l'ont accepté auparavant. » Donc il y a un chemin, il y a toujours une possibilité d'accord et nous allons essayer de la mener à bien. Donc dans ce climat extrêmement volatile et guerrier, entre guillemets,
justement,
il y a toujours cette volonté américaine de réussir à un accord.
Écoutons Marco Rubio que vous venez de citer.
Une perspective s'offre à nous. Cela peut se produire aujourd'hui, demain ou encore la semaine prochaine. C'est la première fois, pour autant que je me souvienne, qu'ils acceptent de négocier certains aspects de leur programme nucléaire. Des aspects qu'ils refusaient de mentionner il y a encore un mois ou un an, et sur lesquels ils ne voulaient pas entamer de discussion. Ça ne garantit pas pour autant que cela aboutira finalement à un accord acceptable pour le Sénat ou pour le peuple américain. Mais nous pourrons les engager dans un processus permettant de tester véritablement jusqu'où ils sont prêts à aller.
Et on va retrouver Igor Saïri en direct d'Israël pour BFM TV. Il est à Tel Aviv. Donc, il y a plus que de la friture, de la tension sur la ligne, là, en ce moment, entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump.
Oui, vous savez, le Premier ministre israélien a fait une promesse à la population de l'État hébreu et notamment aux populations du Nord. Il leur a promis que le Hezbollah serait désarmé et que ces populations du Nord d'Israël pourront vivre tranquillement et rapidement. Et le problème, c'est que cette promesse n'est pas totalement tenue à l'heure actuelle, puisque ces derniers jours, depuis même une bonne semaine, il y a une reprise des attaques du Hezbollah par l'intermédiaire de drones filaires, qui posent d'ailleurs beaucoup de problèmes à l'armée israélienne, par l'intermédiaire de roquettes. Il y a des alertes tous les jours aujourd'hui dans le nord d'Israël. Ça s'est un petit peu calmé d'ailleurs aujourd'hui. Mais rien que dimanche, je suis allé faire un reportage dans un petit village à la frontière, il y a eu 300 alertes en une seule journée. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 300 attaques, mais c'est pour vous dire que la tension règne clairement aujourd'hui à la frontière entre le sud Liban et Israël. Et lorsque l'on comprend cette conversation téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, on se rend bien compte qu'il y a une ligne de fracture qui se voit de plus en plus, qui est de plus en plus explicite. Les intérêts de Donald Trump et des États-Unis ne sont pas les intérêts de Benjamin Netanyahou et de l'État d'Israël. Et c'est pour cela, aujourd'hui, qu'on se rend bien compte qu'il y a d'un côté tous ceux qui ont critiqué Benjamin Netanyahou pour avoir accepté les décisions de Donald Trump de ne pas aller attaquer Beyrouth. Et puis, il y a tous ceux qui disent qu'il va falloir du temps pour désarmer le Hezbollah, pour détruire toutes ses infrastructures et tuer tous ses combattants. Il en resterait encore plusieurs dizaines de milliers à ce stade, selon les informations d'instituts de recherche actuellement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la situation reste compliquée. C'est une impasse, ou en tout cas, l'étau se resserre pour Benjamin Netanyahou. Il faut se rappeler que dans 3 ou 4 mois, il y a des élections législatives, que lui joue également aussi une partition, sa partition durant ces élections. Il veut absolument que cette guerre paye dans les 3 prochains mois, cette guerre contre le Hezbollah paye dans ces 3 prochains mois, et aujourd'hui, la situation reste toujours compliquée, notamment pour les populations du Nord.
Igor Saïri avec Margot Vizad en direct de Tel Aviv pour BFM TV de Tel Aviv. Allons justement à Washington retrouver Antoine Allard pour nous, pour BFM TV. Antoine, est-ce que ça s'est aussi bien passé qu'on le dit, alors, finalement, entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump?
Écoutez, si on en croit le média Axios, qui est toujours très bien informé, non, la conversation a été extrêmement tendue, extrêmement houleuse, le ton est monté, il y a eu des insultes, qu'est-ce que tu fous, t'es devenu complètement cinglé, voilà notamment ce que Donald Trump aurait lancé à Benjamin Netanyahou. Alors ce coup de sang de Donald Trump s'explique d'abord par le fait que à la Maison-Blanche, depuis plusieurs semaines, on considère que Netanyahou est devenu incontrôlable et que son opération au Liban risque de faire capoter toutes les discussions avec les Iraniens, et ça, Trump ne le supporte pas. sait pas. Trump veut absolument un accord avec Téhéran. Il veut se sortir au plus vite de ce bourbier iranien. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un à la Maison-Blanche a fait fuiter cette conversation dans les médias. Et ça, c'est une façon, eh bien, pour Donald Trump de montrer que c'est lui le patron, que c'est lui qui a les cartes en main et qu'il ne se laissera rien dicter et certainement pas dicter le tempo par les Israéliens. En même temps, on voit à travers cette conversation que Donald Trump est nerveux et quelque part qu'il est fébrile. Et ça, ça n'est pas forcément très bon pour lui. Ça montre qu'il n'a pas forcément, qu'il n'est pas en position de force complètement dans les négociations, contrairement à ce qu'il affirme. En fait, ça montre que le chantage iranien a fonctionné. On rappelle que ce coup de fil a été déclenché par la menace des Iraniens de se retirer des négociations si Israël menait une opération à Beyrouth. Et c'est donc pour ça que Donald Trump a décroché son téléphone pour enguirlander Benjamin Netanyahou. Donald Trump qui n'est donc finalement, qui n'a peut-être pas toutes les cartes en main et qui a réagi sous la pression des Iraniens.
Merci Antoine Lard.
Simplement quand même, moi, j'aimerais revenir sur les propos, enfin sur cette conversation, parce qu'elle est assez étonnante, relatée toujours par Axios, ce média américain. Voilà ce que dit Trump à son ami à Netanyahou. Tout le monde déteste Israël. Vous êtes complètement fou. Vous seriez en prison sans moi. Oui. Ça veut dire quoi ça?
Alors, le côté fou furieux, ça passe dans une conversation entre copains, comme vous dites. Le côté « tu serais en prison sans moi », il lui rappelle qu'il est intervenu auprès du président israélien Isaac Herzog pour obtenir une sorte de grâce présidentielle en considérant que toutes ces affaires de corruption, c'est pas bien grave. Mais à mes yeux, l'élément le plus important, c'est quand il pointe l'impopularité grandissante d'Israël aux États-Unis et dans l'ensemble du monde. Aux États-Unis, un sondage Gallup publié par le Financial Times a montré que le pourcentage d'Américains qui sympathisent avec les Palestiniens est aujourd'hui plus élevé que celui des Américains qui sympathisent avec Israël. Cela aurait été impensable il y a 20 ans. Donc il y a eu un basculement, pas seulement chez les démocrates, mais aussi chez les républicains. Netanyahou doit prendre cela en compte et tous les Israéliens, y compris les ministres que citait Ulysse, qui disent « il faut dire non à Trump ». Israël est un État extrêmement dépendant des États-Unis. Depuis 48, 300 milliards de dollars américains à Israël et 52 vétos au Conseil de sécurité des Nations Unies pour protéger Israël. Donc si les États-Unis décident un jour de lâcher Israël ne survivrait pas longtemps. C'est un État fragile, dépendant, un État client.